C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandy. Auteur Christopher Isherwood. Œuvre Adieu à Berlin, Goodbye to Berlin, 1939. Première traduction française en 1946. Personnage Sally Bowles. Adaptation au théâtre, au cinéma et en comédie musicale. Pièce de théâtre I Am a Camera de John Van Druten en 1951, Julie Harris interprétant Sally Bowles. Première adaptation au cinéma, I Am a Camera par Henry Cornelius en 1955. Comédie musicale Cabaret de Kander et Hebb en 1966 avec Jill Hayworth dans le rôle de Sally. Le film Cabaret de Bob Fosse en 1972, le rôle de Sally étant interprété par Liza Minnelli. Sally Bowles, le personnage du fameux roman de Christopher Isherwood, Adieu à Berlin, qui, disons-le en passant, est un chef-d'œuvre, est une jeune Anglaise qui se rend à Berlin à la fin des années 20 pour tenter de devenir une star ou, à défaut, ce que les stars font elles-mêmes quand leur carrière vacille, épouser un homme riche. Ce n'est pas du tout une ouvrière, une chômeuse ou une déclassée, mais une fille de la bourgeoisie anglaise. À Berlin, elle loue une chambre chez une logeuse, comme le narrateur du livre, qui porte le prénom de Christopher, mais n'est pas tout à fait Christopher Isherwood. Plusieurs détails l'en éloignent, en particulier qu'il est bisexuel. Tous deux et les autres personnages du roman se retrouvent donc en pleine République de Weimar. L'Allemagne a perdu la guerre, mais gagné la fête. Il y a des cabarets partout. Magnus Hirschfeld libère l'étude de la sexualité en ouvrant son institut de sexologie en 1919, le premier de l'histoire. Il combat pour l'abolition du paragraphe 175 du code pénal qui criminalise l'homosexualité avec en particulier une pétition signée par personne moins que Tolstoï, Zola, Thomas Mann et Rilke. En vain, puisque c'est grâce à cet article que les homosexuels allemands envoyés en camp de concentration durant la guerre suivante ont été, une fois les camps libérés, envoyés en prison. À propos de Weimar, Steven Spender, un des écrivains de l'entourage d'Isherwood, a écrit « Germany was boys ». Mais ça n'était pas seulement ça. Isherwood avait rompu avec sa classe sociale et était passé à gauche. Son personnage dans le roman a d'ailleurs une histoire d'amour avec un ouvrier. Sally, elle, n'a aucune conscience politique. Dans l'adaptation du roman par Bob Fosse, Sally, incarnée donc par Liza Minnelli, fait un des gestes les plus touchants de l'histoire du cinéma. Elle s'éloigne, de dos, sur un quai de gare. Et, sans se retourner, elle lève l'avant-bras droit et remue les doigts dans un discret signe d'adieu. Si on regardait ses yeux, on verrait qu'elle pleure. Ni le geste ni la scène ne se trouvent dans le roman, mais elle est très bien trouvée. Ah, Sally, notre copine paumée, qui couche un peu trop, qui rêve un peu trop, qui est un peu trop maladroite et manque peut-être un peu trop de talent. Qui est Sally Bowles? Pour en parler, je reçois Gilles Martin Chauffier, romancier, rédacteur en chef à Paris Match, dont il dirige les pages culture. Gilles Martin Chauffier, avant de passer au personnage, je voudrais qu'on parle un petit peu d'Isherwood, qui a été traduit en France mais n'y a jamais rencontré le succès malgré les tentatives de réédition des uns et des autres, y compris de votre serviteur. Qui était donc ce Isherwood?
Christopher Isherwood, c'est un écrivain anglais qui est dû commencer à écrire dans les années 25-30, qui est très copain justement de Stephen Spender, dont vous avez parlé il y a deux minutes, qui est aussi copain de Winston Oden, et les trois sont d'ailleurs des copains à la fois de littérature et de bamboche, parce qu'ils vont tous les trois aller faire la fiesta à Berlin. C'est trois homosexuels et c'est à Londres à l'époque, il y a Bloomsbury, le groupe de Bloomsbury avec Virginia Woolf, Maynard Keynes, Lytton Strachey, etc. C'est la haute intelligence, c'est la NRF anglaise, les gens un peu très chics, très snobs, et eux, c'est la bande des gens un peu marrants et qui sont quand même sous la houlette de E.M. Forster, qui est le grand romancier homosexuel, mais enfin, son homme n'est pas homosexuel, pas déclaré, mais donc, oui, qui est homosexuel, Closet Queen, en fait, lui ne le révèle pas, mais ils sont tous, ils vouent tous un culte à E.M. Forster. Et bon, alors, donc, c'est cette école là, et en fait tout à l'heure Stephen Spender disait pour Berlin c'est des boys, et tous ces trois là vont aller à Berlin, et Berlin en fait c'est Babylone pour eux, et il faut bien comprendre qu'on va à Berlin parce que c'est au fond, ils y arrivent en général entre 27 et pour les premiers 28-29 pour Christopher Isherwood, c'est un peu c'est l'été indien de la liberté en Allemagne, et c'est une Allemagne complètement ruinée dans lequel un Anglais peut vivre avec 2 francs 3 sous, il a un très bon train de vie, Même si lui, il n'en a pas tellement, puisque de temps en temps, Christopher Isherwood dépend de l'argent que lui envoie son oncle, qui ne l'envoie pas régulièrement, donc il doit donner des cours, mais il donne des cours à des grandes familles juives qui veulent apprendre l'anglais en prévision d'un avenir pas forcément brillant, et donc ils ont plus d'argent que les autres.
Et de liberté, parce que comme vous le disiez, il faut rappeler qu'il y a le souvenir du procès d'Oscar Wilde qui n'était pas si ancien,
oui.
Et qui donc est allé au bagne pour ça, et c'était jamais que 20 ans après.
C'est effectivement, et en plus il y a une atmosphère assez excitante à Berlin, c'est qu'en fait, c'est un peu l'atmosphère, la semaine prochaine il y a la révolution. Donc tout le monde se dit, il faut en profiter parce que ça va mal se passer. Et effectivement, dans le livre, ça se passe mal, c'est-à-dire, il y a des agressions par les nazis, il y a des agressions par les communistes, les nazis et les communistes se bagarrent dans les rues. Après arrive...
arrive Sally.
Il faut bien comprendre que... Tout est lié à des garçons. Il a toujours eu des amoureux, des amoureux plus que des amoureux. D'ailleurs, c'était des hommes de sa vie, qui étaient des ouvriers allemands. Et donc, ils font la fiesta en permanence, mais ils ont peur d'une certaine manière. Et
ils ont peur de quoi ?
Qu'en dira-t-on anglais, parce qu'ils sont écrivains. Et donc, le livre, c'est Patrix de Renaud Camus. C'est-à-dire, en fait, ils passent leur vie à aller dans les boîtes de nuit. Ils appellent ça les boîtes irrégulières. Mais on ne dit pas boîte homosexuelle, on ne dit pas boîte à gigolo. Tout est entre les lignes dans le livre. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en fait, c'est une bombe sexuelle, ce livre, mais écrit par un gentleman anglais, d'une certaine manière. Donc, on devine entre les mots ce qui se passe.
Alors, venons-en à Sally. D'abord, à quoi elle ressemble physiquement, cette Sally?
Alors, Sally, tout à l'heure, vous avez dit, c'est une bourgeoise anglaise. Alors, c'est quand on la voit, c'est une pépé de 19 ans qui a un look absolument sensationnel, qui n'a pas du tout l'air d'une bourgeoise, qui a l'air d'une folle furieuse. C'est-à-dire, elle est toujours hyper outrageusement maquillée, elle fume, elle a toujours une cigarette et on la voit un peu... Je ne sais pas si c'est précisé qu'elle a un fume-tière, mais on voit une très très jolie Alice Sapritch de 18 ans. Elle en fait trop. C'est une fille qui en fait trop, qui est habillée en fourreau noir. Mais bon,
avec une casquette de groom sur la tête.
Casquette de groom sur la tête, etc. Et naturellement, son style personnel, c'est de dire à tout le monde dès qu'elle croise quelqu'un, elle le tutoie et dit ça va mon chéri, t'es merveilleux mon amour. Elle est complètement cinglée. Elle boit comme un trou.
Elle aussi, d'ailleurs, vous disiez qu'elle a 19 ans, elle est très jeune, et il y a une part d'émancipation aussi parce qu'elle va en Allemagne, cette fille. En Angleterre, les femmes ont le droit de vote depuis 1918, mais elles ne l'ont qu'à l'âge de 30 ans. Donc, c'est une mineure qui vit en Allemagne, que ses parents bourgeois financent un peu. D'ailleurs, elle reçoit une pension de ses parents. Donc, c'est pas non plus une paumée complète.
Enfin, ça dépend des moments dans le livre, parce qu'il y a des moments où elle n'a pas un sou, où elle sait pas où loger, etc. Il y a par moments, elle est rapia, et puis à d'autres moments, elle est très prodigue, etc. Ce qui est certain, c'est que c'est une gamine qui a une très très forte personnalité, qui est une rebelle. Et donc, lui tombe sous le charme parce qu'elle l'amuse énormément. D'ailleurs, elle dit elle-même, quand elle parle de tour de chant, c'est dans une boîte de nuit qui s'appelle le Lady Windermere. Alors, elle chante et après, elle dit à Christopher, il dit, ouais, je te préviens, c'est du poivré.
Le nom complet de Sally, c'est Jackson Bowl. C'est ça, Isherwood ne le dit pas, mais on sait très bien que les noms doubles en Angleterre, ça veut dire une certaine catégorie de chic et de bourgeoisie. Donc c'est un petit signe qui nous donne du fait que c'est pas une larguée totale. Et d'où vient le nom de Bowles, vous savez?
Il vient de Paul Bowles, parce que lui aussi a traîné à Berlin. Le futur auteur du Théo Sarra, qui est homosexuel et qui est un jeune homme, lui américain, je crois.
Oui.
Et qui, même chose, est venu à Berlin pour les mêmes raisons que les trois autres et qu'une quantité d'autres. Le nom a tapé dans l'oreille de Christopher Isherwood, qui ne pensait pas que l'autre aurait une destinée et un éclat littéraire pareil, et donc Sally s'est retrouvée avec un nom d'écrivain connu.
Alors, vous disiez, Gilles-Martin Chauffier, que Sally est chanteuse. Elle chante, Isherwood l'a décrit, elle chante les bras ballants et pas très bien. Et d'ailleurs, Isherwood raconte dans le livre où il revient sur son passé de manière réelle et réaliste et pas fictive, Christopher et son monde. Il dit qu'il n'a pas aimé l'adaptation avec Liza Minnelli parce qu'elle chante trop bien.
Il a bien tort, parce que moi j'ai adoré cette adaptation, j'ai trouvé ce film génial, je l'ai vu au moins 5 fois ou 6 fois, et Liza Minnelli chante merveilleusement, les chansons sont très très bien, bon, puis on s'en fiche éperdument, je veux dire, on cherche pas à faire Sally Ball, c'est pas gravé dans le marbre, et Bob Fosse fait son film, et chacun mène sa vie, et je dois dire en plus que c'était génial de prendre Liza Minnelli, parce que ce qui était bien, c'est
Pourquoi
qu'il fallait pas... Mais il ne fallait pas qu'elle soit trop jolie. Le film se sert habilement des traces qu'il y a dans le livre, parce que dans le film, ses amants couchent entre eux. Et elle, dans le livre, on ne le sait pas trop. Non, non. On le pressent, si.
Oui,
à un moment, Christopher lui dit, mais t'es sûr vraiment, il t'aime beaucoup. Enfin, et on se dit, tiens, oui, il doit avoir un léger doute. Mais donc, c'est très bien fait. Je trouve que le film Cabaret tire parfaitement parti du personnage de Sally Bowles. Et puis, tant pis, si elle chante trop bien, bah, tant mieux pour elle.
Elle est aussi un peu mythomane, Sally, parce qu'elle fait croire, par exemple, que sa mère est française. Au début, au bout de quelques pages, on se rend compte que c'est une invention totale. Donc, est-ce qu'elle n'est pas aussi, d'une certaine façon, une romancière ratée qui romance sa vie?
En tout cas, elle est complètement mythomane. C'est une poétesse d'une certaine, elle a une vie extraordinaire. Quand elle a pas un sou, parce que tu allais vous dire qu'elle a de l'argent, elle a pas, quand elle peut pas se nourrir, elle se nourrit de porte-flip qu'elle tourne avec son stylo, qu'elle remue avec son stylo.
Ça s'appelle des Prairie Oyster dans le livre.
Oui. Est-ce qu'elle a une mentalité de romancière? Je sais pas, elle a ce côté, cinglé. Qui à la fois qui peut être fascinant dans un livre et qui, si c'était nous, serait absolument insupportable. Je sais pas, à Paris, à un moment, il y a un type qui s'appelait Alain Pacadis. Oui. Alors, quand on lit la vie d'Alain Pacadis dans un journal ou dans un livre, c'est très agréable. Mais quand on était au bain-douche avec Alain Pacadis, tombé sur vous... Non, et puis, il vous tapait, c'était insupportable. Et elle, Sally Bowles, elle est merveilleuse dans le livre, elle est merveilleuse dans le film, mais je me dis... D'ailleurs, ça se passe mal avec Christopher Hitchcock. Il se fâche dans le livre. Et en plus, elle lui balance d'horribles vérité, c'est-à-dire, elle finit par lui dire, écoute mon cher Christopher, voyons les choses en face, tu es un velléitaire, tu es un bon à rien, tu es un paresseux, tu te crois écrivain, tu te perches sur les plus hautes marges de la littérature anglaise, pour l'instant tu n'as rien fait du tout. Et donc, c'est souvent comme c'est ces filles-là c'est ça qui fait que le livre est merveilleux, c'est qu'en fait elle a des moments gentils puis des moments où elle est très méchante, et les caractères des personnages évoluent, ils sont totalement contradictoires par rapport à eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est très très bien vu.
Sally Bowles fait aussi des âneries, elle couche avec n'importe qui, et quand même pour l'époque, ça a toujours existé évidemment, mais c'est un peu violent, c'est que une fois enceinte, elle avorte, on lui fait un faux certificat de santé, et son ami Christopher l'accompagne. Et quand même, il y a ça.
Oui, alors ce qui était assez drôle, c'est que vous dites que la deuxième partie de la journée, la première partie, pour partir en Allemagne, à l'école, elle a prétendu être enceinte.
C'est vrai, elle a prétendu être enceinte.
Pour ne pas continuer ses études et être virée de son école et que son père découragé la laisse partir. Et donc, c'est pour ça que le personnage est romanesquement très riche. C'est-à-dire, il lui arrivait plein de choses. Et c'est très, très bien raconté avec Christopher Schultz, c'est que tout ça, on l'apprend sans l'apprendre, en fait. Il a une façon de raconter tout ça. Un mot par-ci, un mot par-là, oui. Et le personnage se met en place sans qu'on ait. Il n'y a pas eu une grande scène pour dire je vous présente Sally Bowles. Non, elle est entrée comme ça.
Là où vous avez tout à fait raison, c'est que le grand art d'Isherwood, c'est qu'il ne. Ça n'est pas un narrateur en quelque sorte.
Non.
Tout est fait par ellipse et par petite touche. C'est pour ça que je citais ce geste dans mon introduction qui est dans le film et pendant le livre. Mais Isherwood est exactement ça. Oui. C'est-à-dire, il décrit le personnage de Sally. Simplement, on la voit vautrer dans un canapé en buvant ses cocktails, elle feuillette des magazines à bon marché, et on comprend bien que ça veut dire quelque chose, il ne donne jamais l'explication.
Et il donne des tout petits détails qui disent tout. Parce que quand elle a de l'argent, par exemple, il va chez elle, ils vont se disputer, il décrit pas le truc, mais il dit simplement elle s'est acheté un chien minuscule. Je trouve que ça dit tout du personnage grotesque. Évidemment, elle s'achète un petit chien. C'est très bien vu.
Nous allons maintenant entendre Liza Minnelli chanter Mein Herr dans le film Cabaret. La chanson, comme les autres chansons du film, est de John Kander et Fred Ebb, et le film date donc de 1972.
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. care, you're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair.
Gilles-Martin Chauffier, nous avons pas mal parlé de Sally Bowles, et il y a une chose qu'il faudrait dire, c'est que Sally Bowles adore papoter. Et j'emploie ces deux verbes intentionnellement, c'est-à-dire qu'il y a le verbe adore que vous avez vous-même d'ailleurs employé dans la première partie de l'émission, et papoter. Elle adore papoter avec Fritz, qui est l'amant du narrateur, elle adore papoter avec le narrateur, et ça, c'est une des caractéristiques, dirais-je, je peux le dire moi, de la fille à PD ou de la fagrag, comme on dit en anglais, comme on ne disait pas à l'époque. Elle est très caractéristique de ça, n'est-ce pas ?
Ah, complètement. D'ailleurs, c'est ça qui est le personnage, qui fait le personnage de Sally, qui est très original. C'est la première fille à PD majestueuse d'un roman. Et elle ne fréquente que, comme elle fréquente les amis de Christopher, c'est Christopher Isherwood, donc ses amis, évidemment, c'est toute la communauté homosexuelle de Berlin. D'autant que, apparemment, le Berlin qu'on nous montre dans le livre, les endroits, les boîtes de nuit qu'il fréquente sont des boîtes de nuit mixtes, en fait. C'est-à-dire, mais où Sally, qui est la fille à PD typique, c'est-à-dire de comprenant, se plantant, il dit à un moment, elle sort de son tour de chant, elle va parler à un vieux monsieur, elle se rend même pas compte que le vieux monsieur n'a qu'une envie, c'est de s'adresser au barman, et elle perd son temps avec lui. Et donc, oui, c'est des personnages très romanesques, qui sont pas tellement exploités, ni en littérature, ni au cinéma, etc. Et donc, c'est pour ça, c'est d'ailleurs ce qui a très bien mis en valeur Bob Fosse. Dans son film, il insiste beaucoup, lui a très bien vu que c'était ça, la singularité du personnage.
Et d'ailleurs, elle a ça qu'ont souvent ses filles, c'est-à-dire qu'elle a des rapports avec les hommes complètement paumés, parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec les hétérosexuels avec qui elle couche, au fond.
Et d'une, et de deux, en plus, elle a cette... ce travers qu'elle peut prendre à ses copains homosexuels qui changent de partenaire tous les soirs, de dire qu'on peut changer de partenaire tous les soirs, ce qui n'est pas le cas quand on est hétérosexuel. Et donc, ça marche pas. Et en plus, elle a une grosse maladresse, c'est que il y a une espèce dans la communauté homosexuelle, comme les choses vont très vite, il y a une espèce de franchise brutale qui peut pas y avoir dans la communauté hétérosexuelle. Elle, quand elle est avec un homme, elle comprend tout de suite qu'elle veut son argent ou qu'elle veut l'épouser. Et donc, ça marche pas. Et donc, c'est assez, pour ça, le personnage est très très riche, très amusant, et c'est ça qui est bien chez Christopher Jones, c'est que c'est jamais expliqué. C'est des petites scènes, des mood scènes font qu'on comprend qu'elle s'est plantée, mais il va pas dire elle s'est plantée. C'est très très d'ailleurs elle n'arrête pas d'avoir des amants et elle est toujours seule, donc ça suffit, il n'y a pas besoin qu'il le commente, et à nous de comprendre que ça se passe mal.
Oui, elle fait d'ailleurs des petits moments de dépression quand elle est plaquée, on la voit vautrer dans le canapé, elle boit ses Prairie Oyster, elle fume, elle dit rien, mais ça dure jamais.
Mais c'est bon, le problème, c'est que aujourd'hui, Christopher Isherwood, maintenant il est mort, mais c'est des monuments de la littérature. Mais tout ce qu'on raconte là, on raconte l'histoire d'une bande de gens qui ont 22, 25 ans. Et donc, effectivement, ils sont en pleine forme jusqu'à 5 heures du matin, et puis le lendemain, ils ont un pépin, ils s'effondrent en larmes, et puis à 2 heures après, ils pètent le feu et ils retournent danser toute la nuit sur les... C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on lit ça en quinquagénaire repu, mais l'histoire qu'on a sous les yeux, c'est une bande de jeunes gens qui viennent s'éclater à Berlin, dans la ville qui est la Babylone du sexe homosexuel.
Oui, c'est vrai. Et comme vous le disiez, le grand art d'Isherwood, c'est qu'il crée un personnage qui n'est pas monolithique, et il y a ça, Sally Bowles et ce que nous venons de dire, et en même temps, elle est excessivement conventionnelle, puisqu'au fond, elle ne rêve que d'épouser un type qui a de l'argent.
Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. On fait tous la même chose. ça me choque pas du tout. Si en plus le type est beau, tant mieux pour elle.
Alors, par la manière d'Isherwood se remarque bien par touche, comme ça, et par allusion, et sans jamais insister, au moment où Sally va avorter, un médecin lui fait un certificat bidon pour dire qu'elle est malade et pour qu'on puisse procéder à l'avortement, et sa logeuse, puisqu'elle vit chez une logeuse, lui dit, et il n'y a aucun commentaire, le docteur n'est pas juif au moins. Et il y a ça aussi dans le roman, c'est-à-dire que le roman d'Isherwood, c'est un roman de fêtard, de rêveur, de gens foutre, mais c'est aussi le roman, et il n'y en a pas beaucoup, qui décrit l'arrivée du nazisme dans l'Allemagne de Weimar.
Et c'est un roman, non seulement il décrit l'arrivée du nazisme, il y a d'ailleurs, c'est très simple, la moitié des gens, des personnages qui ne sont pas homosexuels ou jeunes, c'est des juifs. C'est-à-dire, c'est les gens chez qui il y a les Landauer, il y a les Bernstein. Enfin, donc, ils se rendent parfaitement compte que c'est là que se joue, que le nœud du drame allemand est en train de se jouer. C'est que ça va finir la fiesta pour les homosexuels, mais que le drame et l'horreur va commencer pour d'autres. Donc, ils s'en rendent parfaitement compte. Et là aussi, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une scène où il ne va jamais dire que ces nazis sont monstrueux ou il n'y a pas de commentaire. Il y a simplement des incidents qui sont évoqués comme ça sur, ou bien on dit, ce club-là a fermé. On se doute bien qu'il avait, il n'a pas fermé parce qu'il avait soudain, ils étaient fatigués de venir faire la fiesta. Il faut bien dire que le livre a été publié en 1939.
Oui, bien sûr.
Le passage que je vais lire.
Allez-y.
Fera très bien comprendre. En mai, j'avais définitivement quitté Berlin. Ma première étape fut Prague. Et c'est là qu'un soir, attablé dans un restaurant en sous-sol, je reçus indirectement les dernières nouvelles de la famille Landauer. À côté de moi, deux hommes s'entretenaient en allemand. L'un d'eux était certainement autrichien, quant à l'autre, je parvenais pas à le situer. Gros et gras, ayant dépassé la quarantaine, il pouvait avoir un petit commerce dans une quelconque capitale d'Europe, entre Belgrade et Stockholm. Tous deux étaient indubitablement prospères, positivement ariens et politiquement neutres. Le gros homme éveilla mon attention en disant « Tu connais le Landauers de Berlin ?» L'Autrichien hacha la tête. « Je connais que ça, fait des affaires en masse avec eux autrefois. Belle installation qu'ils ont là-bas. Dois savoir ce que ça a coûté. » « T'as vu les journaux ce matin ?»« Non, pas eu le temps. » Il y avait quelque chose à propos de Bernhard Landauer. « Bernhard, c'est le fils ?»« Je suis pas au juste. Ça doit être le fils. » Enfin, quoi qu'il en soit, le gros homme rejeta le petit bout de viande sur l'assiette avec un geste d'égout. Il est mort. Non, pas possible. Arrêt du cœur. Le gros homme prit un air grave et porta la main à sa bouche pour couvrir un hoquet. Il avait trois bragues en or. C'est ce qu'on disait dans le journal. Arrêt du cœur. L'Autrichien se retourna à son fauteuil. Pas possible. Ça arrive souvent en Allemagne aujourd'hui. Un arrêt du cœur, dit le gros. L'Autrichien hochait la tête. C'est pas croyable. Tout ce qu'on entend dire, c'est un fait. « Si tu veux mon avis, dit le gros, il n'y a pas de cœur qui résiste quand on vous envoie une balle dedans. » L'Autrichien n'était pas du tout dans son assiette. « C'est nazi, commença-t-il. Ah, ils n'y vont pas de main morte. » Le gros homme semblait prendre plaisir à donner la chair de poule à son ami. « Retiens bien ce que je te dis. Ils ne laisseront plus un seul juif en Allemagne. Plus un seul. » L'Autrichien secouait la tête. « J'aime pas ça. » Des camps de concentration, dit le gros en allumant un cigare, on les fourre là-dedans, on leur fait signer des papiers, et puis ils ont un arrêt du cœur. Je n'aime pas ça, ça va faire du tort au commerce. Ouais, inquiéta le gros, ça va faire du tort au commerce, tout va aller de travers. Et je veux simplement dire que, si je cite ce passage, c'est écrit en 39.
Exactement.
C'est-à-dire, on dit après,
on ne savait pas.
Et c'est vrai que beaucoup de gens, et je veux bien croire que certaines personnes ne savaient pas, mais les gens étaient très lucides et savaient très bien que ça se passait très mal. Et donc, ça, c'est la fin du livre et c'est écrit avant, c'est écrit 2 ans avant le début de l'extermination de la Shoah.
Bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de romans. Il y a quelques romans allemands, d'ailleurs, je recommande aux gens qui nous écoutent La danse pieuse de Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, qui est sur la République de Weimar, la fête
grand
aussi.
Grand copain, Christopher.
Exactement.
Et d'ailleurs, oui,
son
amant Winston Oden, l'amant de Christopher Scherer, va épouser la sœur de Klaus.
Erika Mann, exactement.
Lesbienne comme elle seule.
Exactement. Et donc, La danse pieuse est un très bon roman. Ouais. Et ce qui me frappe beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez, Gilles Martin Chauffy, il faut rappeler que votre grand-père était le Martin Chauffier qu'on connaît, qui était dans la littérature en France entre deux guerres, donc cette question n'est pas anodine. Je trouve très frappant que des romanciers français ne soient pas allés en Allemagne, nous étions concernés au premier chef, pour nous raconter ce qui se passait à Weimar, comme l'a fait Isherwood pour les Anglais, et à la place, nous avons dû nous contenter des petits romans roses et prêcheurs de Jean Giraudoux.
Ce qu'on disait, c'est que c'était Babylone. La jeune génération littéraire française n'était pas homosexuelle.
Alors que à part Monterland, Cocteau...
À part quelques-uns, mais qui étaient, eux, alors Closet Queen à mort.
Enfin, pas Cocteau,
oui,
mais...
Oui, Mais enfin, bon, Cocteau, je sais pas, oui, peut-être qu'il aurait pu, peut-être qu'il avait d'autres goûts, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils ont pas été tentés d'aller faire la fiesta. Ils écrivent des romans parce qu'ils sont allés faire la fiesta à un endroit qui leur plaît. C'est les romans du bonheur, en fait. Alors, évidemment, c'est des lieux épouvantables et ce qui se passe est atroce, mais il faut bien comprendre que c'est raconté par une bande de jeunes gens en pleine forme.
Oui, oui, c'est vrai.
Et les Français, non, bah, c'était pas. En plus, il faut quand même dire une chose, c'est que les Anglais n'ont pas eu, les rapports entre l'Angleterre et l'Allemagne en 1918 n'ont pas atteint le quart de la haine qui était entre la France et l'Allemagne. Un jeune Français n'allait pas faire la fiesta à Berlin. Je veux dire, ses copains n'auraient pas compris, ses parents n'auraient pas compris, ça les aurait pas mis. Un Anglais, ça leur plaisait pas beaucoup, mais ils disaient, bon, après tout, pourquoi pas l'Allemagne, c'est l'Europe du Nord. Les Français, non.
Oui, c'est vrai. Gilles Martin Chauffier, il y a un avantage avec Isherwood, c'est que c'était un écrivain qui parlait beaucoup de lui, qu'il a écrit ce livre dont nous avons déjà parlé, qui est Christopher et son monde. Et dans Christopher et son monde, il nous raconte et il accepte de dire que ce que les romanciers acceptent assez peu de dire, oui, il y a eu un modèle pour Sally Bowles. Il emploie le mot modèle. Mm-hmm. Et ce modèle, c'est qui ?
Ben, écoutez, tout ce que je sais dans Christopher et son monde, il dit que c'est une fille qui s'appelle Jean Ross.
Voilà.
Et tout ce qu'on sait d'elle, c'est que, en fait, c'est elle qui lui a mis le pied à l'étrier. Parce que Christopher Isherwood, dans les années, vers 36-37, avant de partir s'installer aux États-Unis, va travailler pour le cinéma. Et donc il va faire des scénarios et c'est Jean Ross qui le je connais pas du tout. Alors en revanche, moi je sais pas du tout qui c'était, mais je sais que c'est elle qui lui a rendu ce service
là. Et alors là je voudrais m'adresser aux romanciers en vous, c'est dans Isherwood, puisqu'après tout cette émission s'appelle Personnage en personne et parle de personnages, il dit pour sa façon de créer les personnages, je cite, très occasionnellement je fais un amalgame, mais je pourrais toujours identifier au moins une personne derrière chacun de mes personnages principaux. Et est-ce que c'est votre méthode à vous, puisque vous écrivez, si je peux faire un raccourci, des satires qui sont très proches de ce qu'on appelle la réalité? Est-ce que vous aussi, vous procédez comme ça, des modèles que vous pourriez reconnaître derrière vos personnages principaux?
Il y a des personnages principaux de mes livres, oui, qu'on peut reconnaître tout à fait. Mais en général, c'est plutôt les personnages qui sont inspirés de... Par exemple, dans mon nouveau livre, il y a un personnage qui ressemble beaucoup au ministre de l'Intérieur, qui était ministre de l'Intérieur il y a 3 ans. Les gens le reconnaîtront tout de suite. Et François Hollande intervient, donc c'est François. Les personnages qui sont en général plutôt des mélanges. C'est assez rare. Les personnages secondaires peuvent être inspirés par... Il y a un personnage dans mon livre, une assistante sociale un peu exaspérante, qui est effectivement, il y a un modèle, mais pas pour tout le monde.
Une bourgeoise qui se rêve artiste, qui a les moyens de vivre plus ou moins bien à l'étranger sans trop se soucier à l'avenir, est-ce que Sally Bowles ne serait pas la première des bobos ?
Non, c'est plutôt la première des marrantes. Les bobos, ils sont prudents au fond, les bobos. Et puis ils donnent des leçons de morale en permanence. Et puis
ils sont moins chiants que la manif pour tous, les bobos. Qu'est-ce que vous avez contre les bobos? Il vaut mieux des bourgeois qui aiment la littérature que des bourgeois qui manifestent.
Ah non, moi je trouve les bobos insupportables. Maëlys de Carangale, par exemple, c'est exactement, on en parlait tout à l'heure, c'est la bobo, c'est-à-dire elle est dans sa cuisine très confortable, en train de préparer son caviar, et elle pleure parce qu'elle pense aux gens de Lampedusa. Non, c'est ça les bobos. Alors ça, c'est Sally Bowles, elle se fait son caviar tranquille, elle se fiche éperdument des gens de Lampedusa. D'ailleurs, elle n'est pas du tout tourmentée par ce qui se passe en Allemagne dans le livre au passage.
C'est vrai. Ouais. Mais je l'ai dit, elle n'a aucune conscience politique.
Non, aucune.
Oui. Gilles Martin Chauffier, que vous a appris le personnage de Sally Bowles?
Il m'a appris que ce genre de d'huluberlu qu'on croise dans la vie, hein, sensationnel, qui font un... Il faut s'en méfier en réalité. Et donc... Parce que dans le livre, Christopher Isherwood, son personnage, il vit sur un rêve. Et la seule personne qui lui dit en face, t'es dans un rêve, c'est Pipo, ton truc, tu travailles pas, t'es paresseux, t'es velléitaire, c'est assez. Ces gens sont incapables, ces gens qui ont l'air d'être des... pas sérieux, qui ont l'air d'être des rêveurs ou des gens sur lesquels on peut rien fonder, ils sont incapables de mener leur vie, ils n'ont aucune boussole, mais ils sont très bien capables de voir ce que vous êtes. Et donc, je crois au jugement des dingues.
C'était Personnage en personne, le 48e.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Jean-Michel Bernaud. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. de l'autre côté de la